Chapitre 34. La cité souterraine était le théâtre d'un incroyable ballet. D'une part, les scientifiques, qui cherchaient le labo, sondant les murs, effectuant des mesures, et de l'autre, les frères et les gardes, transportant les pierres nécessaires à l'obstruction de la galerie. J'avais chargé Nathan de récupérer les explosifs que je stockais dans notre pièce pour aller miner la galerie. Pour ma part, je m'étais occupé des amorces, du détecteur radio, des fils et du détonateur. Dès qu'il avait été question de tous nous installer dans la ville sous terre, avant même que j'envisage de faire sauter une galerie, j'avais pris soin de lister précisément ce dont nous pourrions avoir besoin, et Derek, comme toujours, avait veillé à l'approvisionnement. Se procurer des explosifs n'est pas aussi aisé que d'aller acheter son pain à la boulangerie du coin. Mais, étant toujours officiellement artificier pour le cinéma, j'avais mes filières. Nous nous faufilions au milieu de toute cette activité, et je remarquai que mon ami commençait à se repérer dans les couloirs. En arrivant dans le tunnel de Serlongue, nous croisâmes Derek, qui m'interpella. « Viens voir où les maçons pensent construire le mur. » Je lui emboîtai le pas. Nathan suivait toujours, avec ses 3 kilos de pain trite dans les bras. Même si elle s'était fait sentir jusqu'au cœur de la cité, la dernière explosion ne semblait pas avoir causé de dégâts significatifs. À présent éclairée par des projecteurs, la galerie n'avait plus grand-chose d'un mystérieux passage secret. Quelques dizaines de mètres après la bifurcation, des blocs de pierre s'empilaient déjà. Derek s'arrêta près d'un homme accroupi qui dessinait un schéma dans la poussière devant 3 coéquipiers. Il releva la tête vers moi. Si nous montons le mur ici, non seulement il pourra donner l'illusion que la galerie ne va pas plus loin, mais sans doute aussi stopper la plus grande partie des vibrations qui abîment les structures. Le maçon avait une 40aine d'années, une barbe aussi rousse que ses cheveux et un accent du midi. Il posa la main sur le flanc du tunnel et reprit. À cet endroit, les parois sont taillées dans la masse. Le tunnel traverse la roche. Si on relie ces 2 masses rocheuses par le mur, on reconstitue à peu près le bouclier naturel qui existait avant le percement du boyau. L'onde de choc des explosions rebondira vers son point de départ au lieu de courir le long du tunnel. Très bien, mais il ne faut pas qu'il puisse souffler le mur. Pensez aussi à camoufler une caméra miniature. On doit pouvoir continuer à surveiller l'autre côté. Il me sourit de toutes ses dents et me tapota le bras. Comptez sur nous, ce n'est pas ici qu'on a envie de faire du mauvais boulot. L'apparente anarchie fit peu à peu place à une chaîne humaine efficace. Les blocs de pierre arrivaient régulièrement désormais. Les maçons les sélectionnaient et les empilaient soigneusement avant de les sceller avec un ciment teint. Les bouches d'aération de la zone de travail avaient été colmatées afin que le bruit de nos activités ne remonte pas à la surface. Pas de chance, étant destinée à la livraison des marchandises, cette galerie était l'une des plus imposantes. Elle devait bien faire 3 mètres de haut sur 5 de large. Il faudrait de nombreux blocs pour la boucher et faire en plus des contreforts. J'interrogeai Derek. Vas-tu te décider à avouer ou tu t'es procuré tout le matériel? Il soupira. Quelques blocs viennent du fond de la cité, de constructions inachevées. Et le reste? D'une grange abandonnée non loin de l'entrée de Montferrier. Elle a été construite dans le même calcaire que la cité. Nous avons presque complètement pillé ces murs. On s'arrangera plus tard avec le propriétaire. Il était gêné, honteux. Je souris de voir sa pauvre mine. Il eut même le droit à une vanne de la part de Nathan. La fatigue et l'inquiétude m'empêchèrent d'en rire. Je mettais en place l'antenne du détecteur radio que j'allais installer près du chantier, quand un frère se présenta à moi. Je coordonne ce secteur, vous m'avez fait demander ? Oui, je vais vous montrer à quoi sert cet engin. Il est probable qu'il fasse exploser d'autres charges pendant que vous travaillerez ici. Il y a de fortes chances que leur détonateur soit télécommandé. Cette petite merveille détecte les impulsions émises pour déclencher tous les détonateurs professionnels existants. En temps normal, on s'en sert pour vérifier que l'ensemble des détonateurs d'un site ou d'un décor ont bien reçu leur signal. Avec la temporisation, nous aurons au maximum 5, peut-être 6 secondes entre le moment où le voyant s'allumera en émettant un bip continu et l'explosion proprement dite. Qu'un de vos hommes surveille cet appareil et donne l'alarme dès qu'il entendra le signal. C'est tout ce que l'on peut faire pour nous protéger. Méfiez-vous des éboulements. Il se peut que la prochaine explosion perce la galerie. Si c'était le cas, dégagez la zone et rabattez-vous vers la place du marché. On fera exploser la bifurcation pour les stopper. À quelques pas de là, les deux premiers rangs du futur mur étaient déjà terminés. Nathan et moi aidâmes à transporter quelques pierres de plus avant d'aller enfin miner la bifurcation. Nathan me laissa examiner les lieux en silence. J'observais minutieusement du sol au plafond la galerie menant aux entrepôts, puis la nôtre sur plusieurs mètres. Je sondais la roche du plat de la main en différents endroits, puis expliquais. Nous placerons une série de petites charges en chapelet tout autour de chaque galerie, puis une plus grosse sur leur séparation. Te sens-tu capable de passer les fils pendant que je prépare les explosifs ? J'ai toujours adoré bricoler. Je m'agenouillais sur le dallage du tunnel haut pour découper les pains de peintrite pendant que Nathan posait les fils en se servant des anfractuosités, des fissures et de colle silicone. Tous les fils devaient suivre les plafonds pour ne pas risquer d'être arrachés par l'incessant passage des hommes qui continuaient d'acheminer les matériaux vers le mur. Des brancards chargés de sacs de ciment et une deuxième citerne d'eau s'ajoutèrent à la liste du matériel convergeant vers le fond de la galerie. Le brouhaha du chantier nous parvenait, les parois guidaient le son jusqu'à nous. J'avais le nez dans ma caisse et Nathan était en équilibre sur une échelle de fortune, câblant le chapelet de la galerie basse quand il demanda « Il ne panique jamais ?»«
Qui ça ?»«
Les gens qui sont sur ce genre d'opération. » »«
Ceux du groupe, très rarement. Les gardes sont formés pour ça. Pour les frères, je ne sais pas. Leur foi les motive et les porte, mais c'est quand même une situation très particulière. Le danger est grand. »
« Tu ne vas pas regretter de leur avoir dit qu'ils ne devaient pas hésiter à renoncer ?»
Je leur ai dit de le faire uniquement s'ils avaient atteint leur ultime limite. Les gardes ne renonceront pas, je crois que les frères non plus, et je n'ai aucun doute sur nous. Nous avons tous des raisons différentes de tenir et d'aller jusqu'au bout.
Alors pourquoi leur avoir dit cela, si tu es sûr d'eux ?
Il faut s'efforcer de tout prévoir. Tant qu'ils seront en pleine possession de leurs moyens, ils ne reculeront pas, mais qui peut dire à quoi nous allons être confrontés ?
S'ils se sentent disjonctés, alors ils se souviendront peut-être de mes paroles et se retireront plus facilement. Ce n'est pas une porte vers la désertion, c'est juste une sécurité en cas de surpression.
Nathan avait presque fini. Des fils pendaient, dénudés, tous les 50 centimètres. Je continuais à répartir les pains en petites masses semblables à de la pâte à modeler. La peintrite sentait d'ailleurs presque pareil. Des effluves de terre avec un je ne sais quoi de confiserie douce qui donnait presque envie d'en manger.
Ça te va comme ça ?
Nathan était debout sous son œuvre. Je me dressais pour mieux voir. Si un jour on m'avait dit que je me retrouverais à miner les souterrains de Montségur avec mon meilleur ami. Je fouillais dans la caisse de matériel pour trouver la pince à sertir quand un hurlement retentit soudain.
Explosion ! Explosion !